Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci d'avoir choisi Europe 1 si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet, ses télescopages. Bruno qui a scruté 3 interviews politiques ce même dimanche. C'était hier. Notre invitée, la romancière Cécile Coulon, a parlé de son nouveau livre « Seul en sa demeure ». Très beau titre. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant la célébrité. Puis enfin, Marc-Antoine Lebray pour les stories de Lebray. Bonjour Guillaume Benesch.
Bonjour Philippe.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe.
On va vous entendre dans quelques instants. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous décortiquez ici les pratiques médiatiques. Et hier soir, je l'ai dit, vous avez été très frappé par le spectaculaire embouteillage d'interviews politiques que vous avez vu se former dans votre télé aux alentours de 20h.
Oui Philippe, bien au-delà du télescopage, hein, c'est un véritable carambolage auquel j'ai assisté hier. Car figurez-vous qu'en moins de 3 quarts d'heure, et en zappant uniquement entre les 2 premières chaînes, j'ai vu se succéder pas moins de 3 personnalités politiques. 2 candidates à l'élection présidentielle dans les journaux de 20h.
Marine Le Pen qui est notre invitée ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Anne Hidalgo.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Et un ancien Premier ministre dans 7 à 8.
Édouard Philippe, c'est le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara.
Alors à un moment où les Français boudent massivement la politique et où l'audience de la télévision ne cesse de s'éroder, je me suis demandé quel sens il fallait donner à cet embouteillage. Et j'ai d'abord été frappé par cette petite confidence signée Édouard Philippe.
Vous avez grandi dans une maison où il n'y avait pas de télévision.
Non. Et alors, à l'époque, c'était surprenant. C'était pas la norme.
Eh oui, l'ancien Premier ministre a grandi sans la télé et aujourd'hui, eh ben, rien n'a changé.
Il y a une télé chez vous, aujourd'hui ?
Non, il n'y a toujours pas de télé aujourd'hui, mais il y a des écrans.
Alors pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui se passe parfaitement bien de télévision juge-t-il nécessaire de continuer de s'y rendre ? Qu'est-ce qui s'y joue de si important et quel impact son intervention peut-elle avoir sur ceux qui la regardent ? Eh bien, ce qui s'y joue, Philippe, c'est essentiellement une guerre. Une guerre statutaire entre des chaînes de télévision qui persistent à penser qu'interroger une personnalité politique leur donne de l'importance. Et pour vous en convaincre, écoutez donc comment Anne-Claire Coudray, qui recevait Marine Le Pen sur TF1, mais qui savait qu'Anne Hidalgo était au même moment sur la chaîne d'en face, s'est exprimée.
Après des semaines de faux suspense, Anne Hidalgo s'est déclarée candidate pour 2022.
Elle a parlé d'un faux suspense. Sous-entendu, allez écouter, Anne Hidalgo n'a strictement aucun intérêt, restez donc ici, nous, on a Marine Le Pen. Quant à Harry Roselmack, eh bien voilà de quelle façon il nous a vendu l'interview d'Edouard Philippe.
Un homme dont chacune des déclarations est épiée, disséquée.
Un homme dont les déclarations sont épiées et disséquées. Ah, mais épiés par qui au juste ? Par les Français ? Bien sûr que non. Par les médias ? Exclusivement. Et par les quelques journalistes qui s'intéressent encore à la dissection. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est dit de si important dans ces séquences ? Hier soir, rien. Anne Hidalgo a terminé une phrase en répétant 2 fois la même chose.
Tous ces gens qui sont aujourd'hui souvent sans droit et même sans droit.
Sans s'en rendre compte et sans que personne ne le lui fasse remarquer. Quant à Marine Le Pen, eh ben, elle a dit l'inverse, rigoureusement l'inverse de ce qu'elle pensait au sujet des magasins fermés par le gouvernement et qu'elle aurait aimé laisser ouverts.
Il a successivement à plusieurs reprises fermé des commerces, je les aurais moi laissé fermer.
Voilà, tout ça dans l'indifférence la plus stricte, tout simplement parce que dans ces moments-là, ni les politiques, ni les journalistes ne s'écoutent plus. Et Édouard Philippe, alors, qu'est-il venu dire d'à ce point passionnant qui justifiait qu'Harry Roselmack le lance avec une telle fanfare ?
L'ancien Premier ministre fend l'armure.
Waouh ! Eh bien, il est venu dire ceci.
Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République.
Mazette. Effectivement, elle a drôlement fendu l'armure, on ne s'y attendait pas. Il s'agissait donc d'un non-événement absolu, au point que, sur la même chaîne, Anne-Claire Coudray a repris l'information comme ça.
Ce n'est pas franchement un scoop, mais au moins, c'est dit.
Voilà. Alors, wow. Je ne sais pas vous, Philippe, mais moi, toute cette séquence m'a fait furieusement penser à l'épisode du non-anniversaire d'Alice au Pays des Merveilles.
Non-anniversaire ? Excusez-moi, mais je ne saisis pas ce que vous voulez dire.
Vous vous en souvenez ? Non ? Eh bien, dans Alice au Pays des Merveilles, on ne fête pas les anniversaires parce qu'il y en a bien trop peu au cours d'une année.
Vous n'avez qu'un anniversaire, par an.
Un anniversaire seulement par an.
Oh, mais il y a 364 non-anniversaires.
Aujourd'hui, nous fêtons un de cela.
En revanche, on fête les non-anniversaires parce que ça offre beaucoup plus de possibilités dans l'année. Eh bien, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la télévision avec la parole politique. Elle la multiplie, souvent sans grande conviction et sans le moindre enjeu. Le hic, c'est que dans notre pays, ça ne produit dans les urnes comme en termes d'audience plus la moindre merveille.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Guillaume Benesch, Votre indispensable ce matin, ce sera quoi, aux alentours de 10h30?
Je vais vous parler d'une pièce, Philippe, qui va vous donner envie de rester assis dans un théâtre. Et je crois que pour une fois, c'est plutôt cool.
D'accord. Et Clément Le Saffre?
On va parler d'un MOOC. Vous savez ce que c'est qu'un MOOC?
Contraction de book et de magazine.
Exactement, un MOOC sur Dune, le film qui sort mercredi au ciné, tout le monde l'attend.
Voilà, et on ne m'avait pas demandé si je savais ce qu'était Dune. Dans un instant, la romancière Cécile Coulon avec nous, mais d'abord musique, c'est un duo, Elton John, Dua Lipa sur Europe 1.
Jusqu'à 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Cold Earth, c'était Elton John en duo avec Dua Lipa sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes une romancière unique dans le paysage français. Seulement 31 ans, c'est bien ça?
Absolument.
Je demande les âges depuis que j'ai reçu le patron de Schnock. Et déjà récompensé et par la critique et par des succès en librairie. Votre roman Une bête au paradis était très bien vendu. Il a reçu le prestigieux prix littéraire Le Monde. Vous publiez également de la poésie. Un de vos recueils, Les Ronces, je vais le citer, car il s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires dans cette niche. Quand on dépasse les 500, on est très très heureux. Votre actualité, c'est un nouveau roman très attendu. Vous faites désormais partie de la rentrée littéraire, alors qu'auparavant vous sortiez vos livres au printemps. Ce livre s'appelle « Seul en sa demeure ». C'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Alors le titre va me servir de viatique. « Seul en sa demeure, seul est au féminin ». Qui est votre héroïne et quelle est cette demeure?
Mon héroïne s'appelle Aimée, Aimée de Ville. Elle est née malheureusement pour elle au 19e siècle. Et elle est mariée, pas de force mais presque, à un riche propriétaire forestier du Jura qui s'appelle Candre Marchère. La demeure, c'est la demeure de Candre Marchère, ouais, dans laquelle elle va aller habiter. Et une fois qu'elle va arriver dans ce domaine, elle ne pourra plus en sortir.
Sans tout trahir, déjà, il y a un petit twist, parce que c'est un mariage arrangé, mais ce n'est pas un mariage arrangé, puisqu'elle le désire. Elle est fascinée par cet homme.
Oh, je ne sais pas si elle désire pas physiquement cet homme, elle désire la vie
avec lui. Non, mais
avant de l'avoir connu,
puisqu'on est au 19e siècle, et la chose ne se passe que le soir, et encore, ça ne se passe pas, je ne veux pas tout spoiler, mais qu'après les noces.
Absolument, elle désire la vie qu'elle peut avoir avec cet homme-là. Toute sa famille désire aussi qu'elle se marie avec celui-là, parce qu'un mariage arrangé, ça veut aussi dire qu'elle est là pour elle remonter les finances de sa propre famille.
Alors, son mari, il a un joli prénom que j'ignorais, il s'appelle Candre. Il a été élevé par sa servante Henria, qui prend soin de lui depuis la mort de sa mère quand il était enfant, puis de sa première femme, Alette, Il y a plein de personnages. Comment vous pouvez les décrire sans tout spoiler? Alors, c'est très étrange, vos livres, puisque dès le début, dès le prologue, vous racontez la fin.
Toujours. J'ai toujours fait ça dans mes bouquins. J'aime bien, dès la première page, faire un premier chapitre, si on veut, où tous les indices sont là. La résolution du livre est là. Et pourtant, j'ai envie que les lecteurs et les lectrices continuent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense qu'en littérature, ce qui m'intéresse, et dans la vie de manière générale, c'est pas forcément d'avoir une réponse, mais de comprendre tous les éléments, toutes les traces, tous les indices qui nous emmènent à une situation, comme du polar en fait. Ouais. Et donc ces personnages du livre, il y en a effectivement quelques-uns. Il y a Candre et Aimé qui sont donc mariés, jeunes mariés. Et dans ce domaine, il y a trois autres personnages qui sont Henria la bonne, Angelin le fils de la bonne et Emmeline la professeure de flûte qui vient 2 heures par semaine de Suisse pour donner des cours.
Alors, je ne trouve plus son prénom. Angelin, oui. Qui est muet, on saura pourquoi. Mmh. Après, ou pas, la flûte traversière, cette musique, Emmeline qui donne des cours de musique, elle lui donne des cours de musique sans la faire jouer de musique. Ce qui est assez paradoxal. On dirait le solfège aux temps anciens. Mais c'est aussi qu'elle découvre le plaisir à travers une femme avec la manière dont elle la tient. C'est très, très physique, ces
Absolument.
Cours de musique.
Oui, bah c'est, je pense, la différence entre la sensualité et la sexualité. Quand Aimé rencontre cette jeune femme et qu'elle vient lui donner des cours et qu'en fait elle ne va jamais jouer d'instrument, on ne dira pas très exactement ce qu'elles vont faire pendant ses cours, mais en tout cas elle lui apprend à se tenir droite, à respirer profondément, à ouvrir sa poitrine, à ouvrir son cœur, à travailler ses muscles. Et en fait, Aimé, grâce ou à cause de cette professeure de musique, va comprendre ce qu'on ne lui a jamais expliqué, à savoir comment fonctionne le désir féminin et le plaisir féminin.
Et c'est encore plus complexe que cette professeure, c'est son mari qui lui a trouvé et qui l'a fait venir.
Absolument, c'est son mari qui, en ayant marre, il ne le dit pas comme ça, mais il en a un peu marre parce que ça fait des semaines et des semaines que sa nouvelle femme est là, il ne se passe pas grand-chose entre eux, et il voit qu'elle s'ennuie, il voit qu'elle est prisonnière de cette forêt, de ce domaine, elle ne connaît personne, et il lui dit, voilà, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant ? Bah, je prenais des cours de musique, et bien on va faire venir quelqu'un. Donc en fait, là où quand même le mari, inconsciemment, il a fait quelque chose d'intelligent, c'est qu'il fait venir quelqu'un chez lui qui va ouvrir le cœur et le corps de sa femme.
Vous
et ça va fonctionner.
Vous me voyez sourire, ça vous étonne.
Je vous vois.
C'est vous en parler comme s'il existait vraiment.
Le mari ?
Ouais. Vous dites là où il est intelligent, comme c'était un véritable personnage.
Ouais,
et
absolument.
Non pas un objet de votre imagination.
Bah, vous savez, quand on écrit un livre, on est avec ces personnages pendant des mois, on les travaille, on les hait, on les aime, on essaye de ne pas les juger. De temps en temps, on a envie de leur mettre des claques en leur disant « là, t'abuses un peu ». Et en fait, c'est nous qui les créons, ces personnages, mais ils nous dépassent un peu. Dans l'écriture, il y a des choses qui nous dépassent. Quand je relis le bouquin, quand j'ai relu les épreuves du livre à la fin de l'écriture, je me suis dit, c'est fou, il y avait des choses que je n'avais pas imaginées, dont je n'étais pas consciente. Et quand, après, je lis, je me suis dit, mais l'écriture est toujours plus forte que nous.
Après une leçon de musique, Aimé songea à sa propre émotion, à son ventre qui se réveillait, à ses vêtements qu'elle choisissait avec soin pour une femme qu'elle connaissait à peine. Elle ressentait jusque dans son sexe la main d'Emeline qui appuyait sur son dos et son plexus. C'est le style inimitable de Cécile Coulon, seule en sa demeure. On continue d'en parler. Culture Média continue. Le portrait de Lisa Marie arrive tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Cécile Coulon, seule en sa demeure. C'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Bonjour Lisa Marie. Je vais arriver à le dire. Lisa Marie Marquez.
Bonjour Philippe
Vandel. Le démarrage, c'est jamais facile, en tout cas pour moi. Vous êtes avec nous, Lisa Marie, pour faire le portrait de l'invité, un portrait inédit, le portrait d'une célébrité avant sa propre célébrité.
Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Vous êtes romancière, poétesse, éditrice. Vous avez 31 ans et vous avez déjà écrit 8 romans, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes née à Clermont-Ferrand et vous avez grandi à Saint-Saturnin, un petit village entre les volcans et les lacs. Dès votre plus jeune âge, vous avez une certitude, celle que vous allez raconter des histoires. Votre première source d'inspiration enfant, ce sont les dessins animés de Tex Avery. Il y avait aussi la série d'animation Pingu. et un film que vous regarderez plusieurs fois à des âges différents pour en saisir tous les messages et toute l'intensité, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud sur des textes de Jacques Prévert.
Pingu, c'était quoi ? Vous avez fait une tête ? Mais non, comme mais c'était Pingu... un souvenir merveilleux.
Non, mais Pingu, je ne sais pas si ça passe encore, mais Pingu, c'était un dessin animé allemand fait en pâte à modeler, c'était un petit pingouin sur la banquise. Et en fait, aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit mais c'est complètement flippant pour des gamins.
Pourquoi ?
Parce que c'est y a ces mouvements hyper saccadés, il y a des énormes têtes de phoque qui apparaissent de n'importe où. Moi, je trouvais ça tellement marrant, puis il fait newt-newt avec son bec tout le temps. Enfin, vraiment, regardez les replays sur YouTube, maintenant c'est disponible tout ça. Ouais. Mais c'est meilleur dessin animé des années 90.
Cécile Coulon, autre source d'inspiration, les histoires toujours, celle des livres que votre mère vous lit tous les soirs, notamment la collection « Je lis des histoires vraies ». Puis vous grandissez et vous lisez seul, sous la couette, avec une lampe torche, les livres de Stephen King. C'est lui qui vous fait aimer la littérature, même si ça vous fait faire des cauchemars, mais vous ne pouvez pas vous arrêter.
C'est absolument vrai. Je pense que Stephen King, c'est quelqu'un qui a fait peur à des millions d'adolescents, et pas que des adolescents. Et en même temps, c'est parce qu'on fait des cauchemars qu'après on se met à écrire des bouquins.
Ah ouais.
Cécile, depuis...
Juste un mot, vous aviez quel âge quand vous lisiez Stephen King avec la lampe torche ?
C'était mes frères, mon grand frère avait reçu un exemple, avec tous les livres ensemble, un coffret. Et donc je devais avoir 10 ans.
Cécile, depuis toujours, pour vous, tout est possible. Dans les histoires comme dans les jeux de cartes qui font partie intégrante de votre enfance. En famille, vous jouez au whist, un jeu qui consiste à parier sur le nombre de plis. Et vous, Cécile, vous pariez au-delà du nombre de contrats possibles, même si c'est perdu d'avance. Parce que tout est possible.
Parce que tout est possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux faire plein de choses en même temps.
À l'école, au collège, vous êtes une bonne élève, parfois un peu bout en train. En classe de 5e, vous écrivez votre premier texte, Descente 14, et vous empruntez à l'Est d'Éden de John Steinbeck à la bibliothèque pour ne jamais le ramener.
Je l'ai encore.
Vous l'avez encore ?
J'ai encore, oui.
Et le CDI le cherche encore ?
Bah, j'espère.
Lorsque vous arrivez au lycée, vous prenez l'option cinéma parce que vous avez toujours envie de raconter des histoires et il vous semble que le cinéma est fait pour ça. Mais vous vous rendez compte que c'est l'écriture qui vous plaît le plus. Et ça se confirme en classe de première lorsque vous étudiez l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous commencez à écrire votre version moderne. Votre prof de français détecte votre potentiel et vous pousse à continuer d'écrire au-delà de l'exercice. Vous rédigez un manuscrit, c'est votre grand-mère qui lit le texte final en premier, elle est bluffée, tout comme 2 ans plus tôt lorsque vous lui écriviez un superbe poème pour ses 75 ans.
Wow.
C'était absolument ça. Juste un petit détail, c'était en seconde.
En seconde ?
Ouais, c'était en seconde. Parce qu'en première... Je passais plus de temps à regarder des films qu'à écrire. Et j'écrivais beaucoup en seconde.
Mais votre manuscrit se retrouve entre les mains d'un nouvel éditeur auvergnat. C'est comme ça que vous publiez votre premier roman à seulement 16 ans, Le voleur de vie. En 2009, votre deuxième histoire est prête à être publiée dans votre maison d'édition locale. Mais une de vos amies envoie le manuscrit à des éditeurs nationaux. Quelques semaines plus tard, sur le répondeur familial, vous avez un message vocal, celui de l'éditrice Viviane Nami, qui vous invite à venir la rencontrer à Paris, c'est bien ça ?
Absolument.
Et là, vous êtes mineure ?
Là, je viens d'avoir 18 ans, je viens de quitter la maison familiale pour prendre une piole à Clermont. Quoi. Ouais. C'était septembre, vraiment mes premières semaines en classe de prépa. Quoi. Et ma mère m'appelle en me disant... Disons, il y a quelqu'un qui appelle pour toi, il faudrait dire à tes potes de t'appeler sur ton portable parce que tu vis plus à la maison. Et je dis, mais tu sais, j'ai pas de pote qui s'appelle Viviane. Donc je pense que c'est pour le boulot, quoi. Et voilà comment ça s'est passé.
Vous publiez « Méfiez-vous des enfants sauvages », puis « Le roi n'a pas sommeil ». Vous vivez vos premiers grands moments d'écrivaine. Par exemple, des séances de dédicaces, parfois dans le froid, comme devant la librairie d'Ambert. Et aussi des moments plus réchauffés, aux vendanges littéraires de Rivesaltes, où vous remportez le prix de coup de cœur avec comme récompense 100 bouteilles de Grand Cru.
C'est pas vrai.
Tout à fait. Qui était stocké chez ma grand-mère, faut quand même le dire. Ils sont arrivés, ils ont tout mis chez ma grand-mère et je pense qu'en fait, c'est vraiment le prix qui a fait plaisir à toute la famille, celui-là.
Voilà. Il en reste
vraiment.
Encore ou pas ?
Il en reste encore, ouais.
Vous êtes aussi invité dans la grande librairie auprès de l'écrivain Russell Banks, que vous aviez rencontré en Auvergne des années plus tôt à la librairie des Volcans, ça ne s'invente pas. Cécile Coulon, vous vouliez raconter des histoires, la suite on la connaît, voilà pourquoi j'arrête ici de raconter la vôtre.
Merci.
C'est impressionnant quand même cette accélération, cette vie météorique.
Ouais, et en même temps maintenant quand j'y pense, j'ai 31 ans et donc ça fait 15 ans que j'écris des livres et que je les publie, enfin qu'on les publie, moi j'ai l'impression que j'ai passé la moitié de ma vie à raconter des histoires. Donc pourquoi s'arrêter là ? C'est tellement jouissif de raconter une histoire.
Vous ne comptiez pas vous arrêter?
Non.
Ça tombe très bien, on comptait continuer l'émission. À demain, Lisa Marie Marquez.
À demain.
Cécile
Merci beaucoup.
Coulon avec nous, Culture Média. Continue, à tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Cécile Coulon, seule en sa demeure, c'est son 8e roman après Une bête au paradis qui avait reçu le très recommandé prix littéraire du journal Le Monde. On a l'impression que dans ce roman, comme dans justement Une bête au paradis, les lieux, les décors sont presque aussi importants que les personnages eux-mêmes, comme si vous étiez dit... Quelle va être cette demeure et qu'est-ce que je vais y en faire ou je me trompe ?
Pour tous mes bouquins, le personnage principal, ça a toujours été le lieu. Je commence toujours un livre, l'écriture d'un livre, en me disant où est-ce que ça va se passer et de quelle manière les lieux vont influencer les personnages, vont influencer leur comportement, leur façon de faire, leur violence surtout, plutôt que l'inverse. Je trouve que c'est extrêmement plus que rafraîchissant de se dire pour une fois... c'est pas les âmes humaines qui vont venir abîmer, détériorer, qui vont venir mettre en pièces, mais l'inverse, que c'est la nature, que c'est la forêt, la montagne, qui vient complètement étouffer ou protéger les gens qui vivent dedans.
La maison, elle existe ou vous l'avez inventée? Parce que la précédente existait.
Absolument.
La précédente maison, c'était celle de votre grand-mère.
C'était
un
la
peu romancée,
ferme
mais...
familiale où avait grandi ma grand-mère. Et là, en fait, je me suis inspirée d'un endroit dans le Jura qui sont les mines, les salines d'Arc-et-Senans, les réserves de sel royales où je suis passée de nuit pendant un festival et je m'étais dit mais cet endroit est absolument magique au sens premier du terme, mystérieux et ça ferait un excellent décor de roman à la Hitchcock et 7 ans plus tard, cette idée est revenue.
Quelque chose si frappant, c'est que dans votre roman, les bêtes se retrouvent au même niveau que les hommes. Aimée dit qu'elle se sent comme une jument dont le principal rôle est de mettre bas. Dans le précédent roman, c'était les cochons qui jouent un grand rôle. Pourquoi cette importance donnée aux animaux ?
Alors déjà, je tiens à signaler que je ne suis pas végétarienne. En tout cas, je crois que d'une part, ils vivent à la campagne, parler de la campagne, parler des lieux naturels sans parler des animaux, c'est un non-sens, puisque ces endroits sont d'abord là pour les animaux et sont, faits par les animaux, par leur passage et par leur violence à eux. Et je voulais aussi que les personnages aient des animaux totems. Et c'était déjà le cas dans Une bête au paradis, c'était déjà le cas dans 3 saisons d'orage, de montrer des gens qui sont beaucoup plus proches de la vie animale que de la vie humaine parce qu'ils ne comprennent pas la vie humaine, ils ne comprennent pas leurs semblables. Et la seule façon pour eux d'avoir un peu de douceur, un peu de tendresse, c'est d'aller du côté des chevaux, des chiens, des insectes. Il y a beaucoup de fourmis dans ce texte qui ont leur importance. Et pour moi, c'était une façon de dire ils sont vraiment, comme on dit, perdus pour la nation, mais ils ne sont pas perdus pour la nature.
Vous avez écrit des poèmes, on va en parler. Vous avez écrit ces romans, vous pourriez écrire des pièces de théâtre ?
Bah, j'adorerais écrire des pièces de théâtre, mais après c'est une question de temps. Les journées font 24 heures quoi, et je dors énormément. Mais ce serait une idée pour la suite qui commence à me gratter, comme on dit.
Vous avez une idée de thème ou pas du tout ?
Mais j'ai plein d'idées de thèmes. En fait, j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre.
Ah oui ?
Même deux.
Ouais.
L'une était un monologue d'un auteur, enfin d'une autrice, qui reçoit un Goncourt à 45 ans et qui décide de tout arrêter après avoir reçu le Goncourt. Et tout le monologue, c'est les gens autour ne comprennent pas. C'est cette personne qui explique ce que c'est que l'enfer de l'écriture. Et l'autre pièce, qui pour le coup était une pièce, tout se passait autour d'une table de casino, d'une table de roulette. Et il y avait 8 personnages qui étaient là pour jouer et en fait qui n'étaient pas vraiment là pour jouer, qui étaient tous liés les uns aux autres. C'était une sorte d'Agatha Christie dans un casino.
Qu'est-ce que c'est bien lancé ? Quel teaser ? On a déjà envie de lire les deux.
Eh bien, s'il y a des producteurs intéressés, n'hésitez pas à appeler au standard.
Il y a peut-être le producteur Richard Anconina, Guillaume Benesch, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous allez parler, vous m'avez dit, ça sera un futur triomphe au théâtre.
Absolument, mais je vais déjà vous poser le décor et ça va peut-être vous intéresser. Studio Marigny, à Paris, une petite scène, moquette au plafond. Moquette au sol, plafond de,
oui.
de bureau,
ouais.
pardon.
Wow, la lundi moquette matin. Au
plafond. Il y aurait pu y avoir aussi.
Lundi matin.
Vous savez ce plafond de bureau un peu bizarre avec les plaques blanches, là, on se demande toujours ce qu'il y a au-dessus. Un très grand bureau, très très grand bureau, 2 écrans dessus, des câbles partout, un micro comme le nôtre, une machine à café qui fait un peu trop de bruit, 2 portes vitrées, des sonneries de téléphone incessantes, un logo géant de la police nationale. Voilà, on est dans un commissariat.
Et tout va se passer ici.
1h30, au même endroit, avec 10 personnages. Mais vous allez être surpris, Philippe, il n'y en aura que 2 sur scène.
On ne les voit pas.
Non, on ne les voit pas, mais on les entend. Et c'est là où c'est fou. Car cette pièce est un huis clos au concept on ne peut plus original. Un acteur va passer son temps au téléphone. Cet acteur, ce n'est pas un petit nouveau du cinéma, puisqu'il s'agit de Richard Anconina. Je vais en citer quelques-uns de ses films. Itinéraire d'un enfant gâté, La vérité si je mens, Star 80. Ouais. Et pour la première fois, à 68 ans, il monte sur les planches dans cette pièce qui s'appelle Coupable. En Conina joue un flic, Pascal, qui a déconné sur le terrain et qui se retrouve à faire la permanence de police secours. Vous savez, le numéro 17.
Ouais,
uniforme de flic, micro-casque sur les oreilles. Personnellement, c'est un mec qui va très mal. Un procès qui a lieu le lendemain, sa femme qui l'a quitté et surtout, un nouveau taf qui lui plaît pas du tout. Et comme tous les soirs, les appels d'urgence s'enchaînent. Un mec défoncé en soirée qui a peur de la drogue dans son sang. Une fille tombée de son vélo qui a mal au genou. Et puis le téléphone bip encore. Mais là, tout bascule.
Un appel grave ?
Pire. Un appel de détresse, une femme en larmes qu'on devine dans une voiture qui fait semblant de parler à sa fille, Anconina, enfin Pascal, ne comprend pas. Et puis il finit par capter, elle a été enlevée. S'ensuit ensuite une série d'événements interminables, le temps qui passait habituellement très lentement pour ce flic paumé. Ce soir file à toute berzingue, le voilà dans une véritable course contre la montre, une course rythmée par les voix au téléphone.
Et là on a envie d'entendre un extrait.
Je sais que c'est tentant, mais non Philippe, je ne vous ferai pas ce cadeau parce que cette pièce qui a été adaptée du film suédois Den Skidlige est un bijou scénographique et sonore, une réelle expérience et qu'aucun extrait ne pourra représenter. Jérémy Lippmann, le metteur en scène qui a eu une nomination au Molière en 2020, propose avec Coupable une pépite assez unique en son genre, du cinéma au théâtre. Vous Philippe qui n'aimez pas rester assis pendant plus de 20 minutes, oubliez l'idée de regarder votre téléphone ou même de vous barrer de la salle, ça n'arrivera pas, aucune lenteur, aucun blanc, aucune erreur. Les écrans au fond de la scène et les lumières vous embarquent dans une immersion visuelle incroyable à travers la création sonore qui est digne sincèrement d'une série Canal+, et notamment de la série Calls. Les bruits de porte, ah oui, la pluie, le frottement des vêtements, le souffle, on entend tout, ça en est complètement déconcertant, au point où il m'est arrivé, j'avoue, d'avoir le cœur battant d'une façon assez solide, juste avec du son.
Et Anconina là-dedans ?
Il est bluffant. Une présence scénique captivante, il joue comme au cinéma avec cette simplicité assez déconcertante qu'on lui connaît et qui a fait son succès, et même avec une certaine timidité, si ce n'est une certaine pudeur. Il partage la scène avec la comédienne Gaëlle Voukissa qui fait quelques apparitions et où leur duo fonctionne très très bien. Et puis surtout, il partage la scène avec la régie. Ce n'est pas une bande-son sur laquelle Anconina cale son texte, non, tout est fait en direct. Les sons sont envoyés directement par la technique au fur et à mesure. Un travail pointilleux et impressionnant, comme d'ailleurs peut le faire Jérémy, notre réal chez Culture Média.
Vous l'avez vu quand la pièce ?
Alors je l'ai vu il y a quelques jours, jeudi
dernier. Et
alors
ça se finit comment ? Applaudissements ?
Et plus que des applaudissements, standing ovation, 4 appels, salle comble tous les jours depuis 15 jours au studio Marigny. Et puis une tournée qui se prépare pour 2022. Coupable est une petite merveille et sans aucun doute, un futur très grand triomphe.
Il le vend bien, hein, Cécile Coulon.
Il le vend très bien. Je crois qu'actuellement, il y a le film Guilty aux États-Unis avec Jack Gyllenhaal qui joue le rôle de Richard Anconina. Moi, j'avais vu le premier film et c'est incroyable. Enfin, en tout cas, vraiment aller voir cette pièce, quoi, parce que vous êtes dedans, vous êtes pris. C'est une angoisse qui n'en finit pas, quoi.
C'est ça, et puis c'est une vraie expérience.
Redites le titre de la pièce.
Ça s'appelle Coupable.
Avec Richard Anconina. Et à tout de suite, Culture Média. Continue à parler de Dune.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la romancière Cécile Coulon, seule en sa demeure, son 8e ouvrage de fiction, sans parler des poésies, s'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Clément Le Saffre, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de Dune, le film qui sort mercredi en salle.
Oui, parce que c'est quand même un peu l'événement ciné de l'année. Une nouvelle adaptation du livre de science-fiction culte de Frank Herbert, un livre paru en 1965 et déjà adapté par David Lynch en 1984. Cette fois, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur de Premier Contact et Blade Runner 2049 qui s'y colle.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Paul. Une croisade se prépare.
Alors, on va rappeler l'histoire de Dune quand même. C'est un récit centré sur Paul Atréide, héritier du trône d'Arrakis, une planète de sable d'où est tirée l'épice, un mélange convoité qui est à la fois une drogue et un carburant pour les voyages spatiaux. Le jeune Paul se retrouve pris dans un obscur jeu de pouvoir qui le contraint à l'exil auprès des Fremen, un peuple du désert avec lesquels il va tenter de reconquérir son trône. Une histoire complexe donc, avec un univers très riche, moult personnages. Et si ça vous fait peur, pas de panique, vous allez pouvoir réviser grâce à un bel ouvrage, tout sur Dune, qui vient de sortir en librairie.
Ah donc c'est pas Dune, c'est un livre sur Dune donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans ?
Eh ben on trouve énormément de choses, hop je l'ai avec moi, tac, c'est déjà plutôt conséquent. C'est un ouvrage d'analyse en fait qui décortique le moindre détail du livre de Frank Herbert, une bible de 300 pages, rien que ça initialement. C'était un MOOC, hein, c'est donc un format hybride entre le livre et le magazine. C'était sorti l'an dernier pour accompagner la sortie du film, finalement décalé à cause du Covid, mais gros carton quand même. Le MOOC a été vendu à 15 000 exemplaires.
Incroyable.
Sur 16 000 imprimés. Et c'était un ouvrage en financement participatif en plus, d'où l'idée finalement pour poursuivre cette aventure de ce livre tout sur Dune, qui est en fait l'extension du projet de départ, transformé en livre avec un peu plus de qualité, un ouvrage coordonné par le spécialiste de la science-fiction, journaliste également, Lloyd Sherry. Il s'est entouré pour ça d'un sacré casting.
Il y avait une envie de rassembler les Avengers, un peu de la SF. J'ai pris des auteurs de science-fiction, des universitaires, des journalistes, des scientifiques et des professionnels, dont des réalisateurs. On a quelques superstars anglo-saxonnes, comme Robin Hobb, comme Denis Villeneuve en personne. Il y a Jodorowsky, il y a Raphaël de Laurentiis. Donc il y a eu vraiment envie de faire un peu un ouvrage le plus complet possible sur Dune, sur les adaptations, sur comment le roman a été écrit.
Alors, au total, plus d'une cinquantaine d'auteurs décryptent le moindre aspect de Dune, ses héros, son monde, son langage, ses références politiques, ses adaptations. Il y a aussi une quarantaine d'illustrations commandées spécialement à des artistes pour le livre. C'est très très beau à regarder et c'est vraiment, moi je trouve, un bel ouvrage.
Mais est-ce qu'il faut avoir lu Dune pour en profiter? Oui, quand même, ou pas?
Alors c'est quand même mieux, puisque Dune est quand même très complexe et vous n'allez pas tout comprendre sur l'analyse si vous n'avez pas lu le livre. Après, ça peut aussi être un très bon complément au film. Vous pouvez aller voir le film qui sort mercredi. Après, si vous n'avez pas envie de lire Dune, vous pouvez lire tout sur Dune. Mais je vous recommande quand même chaudement de lire le chef-d'œuvre de Frank Herbert. C'est un livre assez clivant, 700 pages quand même, il faut rentrer dedans. Soit vous y arrivez, et alors là, la lecture vous prend et vous restez marqué à vie par ce livre, soit vous y restez complètement hermétique. C'est l'un ou l'autre. Et tout sur Dune analyse justement assez bien, je trouve, cette dualité à sa sortie. Dune n'a pas très bien marché. C'est longtemps resté en fait un livre de contre-culture vénéré sur les campus américains, notamment à Berkeley. Écoutez le Cherry.
Dune faisait écho à l'actualité que vivaient beaucoup d'étudiants. Dans Dune, on parle de l'épice. L'épice permet de voir l'avenir, permet aussi de vivre plus longtemps, de renforcer le corps. L'épice fait aussi évidemment une autre forme d'épice qui était à la mode dans les années 60, qui est le cannabis. Il y a aussi les questions liées à l'écologie qui, à l'époque, arrivait tout juste. Et puis, on a ces Fremen, ces peuples du désert qui essayent de gagner leur liberté. Ils sont sur Arrakis, ils sont colonisés par des maisons nobles. Évidemment, ça fait écho à ce qui se passait au Vietnam.
Ça fait partie des mille et une petites choses que l'on apprend en lisant ce livre passionnant, tout sur Dune, aux éditions de La Talente. C'est disponible déjà partout en librairie, avant même le film.
Et le film, il est comment? Vous l'avez vu?
Pas du tout.
Vous voulez pas le voir?
Si. Évidemment que j'ai envie de le voir, mais je ne veux rien savoir avant de le voir.
Je viens de comprendre. Ça vous tente, Cécile Coulon, ou pas?
Ça me tente. Moi, j'avais un ami qui adorait Dune, qui avait lu le texte, qui faisait partie de ses fans absolus, et qui me disait, quand on a lu Dune, on considère que Game of Thrones, c'est la plus belle de la vie, quoi.
Bien. C'est pas faux.
On reste
c'est
pas sur cette punchline. Cécile Coulon reste avec nous. Dernière ligne droite de Culture Média. Musique maintenant, Nolwenn Leroy sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Brésil, Finistère, vous avez évidemment reconnu la voix de Nolwenn Leroy. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray dans ce studio, toujours avec Cécile Coulon. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Cécile Coulon, Seul en sa demeure, son nouveau roman. Après une bête au paradis, ça se passe dans une grande, grande maison, mais c'est à la campagne. C'est pas près de Clermont-Ferrand, mais c'est dans le Jura. Et vous dites, je parle de vos origines, parce que c'est assez frappant. Les gens disent, mais pourquoi vous habitez un petit village à côté de Clermont-Ferrand plutôt qu'à Paris? Je vais pas vous reposer 100 fois la même question. Mais vous dites avoir grandi dans un espace non pas paysan, mais rural. C'est quoi la différence?
Bah, en fait, moi, j'ai grandi dans un espace où mes parents, eux, ne travaillaient pas la terre. Donc, ne sont pas paysans, ils ne sont pas agriculteurs, même si ma mère est issue d'une famille d'agriculteurs. Et donc, l'espace rural, quand on n'a pas à travailler la terre, c'est pas du tout la même vie. Et je pense que c'est une vie qui est beaucoup moins difficile, beaucoup moins chargée. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans cet espace-là parce qu'il est à la fois très beau et moins fatigant que l'espace agricole.
Et vous dites la chance parce que justement, vous n'avez pas envie de le quitter, vous n'avez pas envie de déménager pour la grande ville.
Et
vous dites, cette phrase qui m'a interpellée, vous dites « l'exode rural a provoqué une sorte d'exode littéraire ».
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en littérature classique, tous les bouquins classiques du 19e, c'est toujours un jeune gars qui monte à Paris, il est de province, et il dit à nous deux Paris, je vais réussir comme ça. Et en fait, en littérature, ensuite, il y a eu cette espèce de transfert, de mise en abîme, où aujourd'hui, si on ne publie pas un livre dans une maison d'édition qui est à Paris, si on ne vit pas à Paris, si on ne participe pas à tous les événements autour de l'édition française, on nous dit, mais en fait, vous n'y arriverez jamais, c'est pas possible, vous pouvez pas publier des livres à Paris, habiter à Clermont-Ferrand et penser pouvoir vivre de votre écriture, ce qui est donc totalement faux.
C'était peut-être vrai auparavant, parce qu'il y a le contre-exemple notable d'Actes Sud, par exemple.
Oui, sauf qu'Actes Sud, ils ont une très grosse antenne à Paris.
Ouais, on est d'accord. Quel effet ça fait d'être connu? Je veux dire le sens de ma question.
C'est d'être connu à Clermont-Ferrand, parce que
non,
connu
non,
à Clermont-Ferrand,
non, 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 non,
à part me donner un très très gros coupon réduction sur le fromage, mais c'est super hein, comme façon d'être connu.
Vous êtes romancière, vous commencez à devenir une people, je vais dire le signe, le marqueur, c'est que le magazine Elle vous a consacré sa fameuse page 24 heures dans la vie d'eux, habituellement c'est Monica Bellucci.
Et ça, c'est la célébrité, ça.
Non, je voulais voir l'effet que ça vous... Normalement, c'est Monica Bellucci ou Inès de la Fressange, 24 heures dans la vie d'eux. Quel effet ça fait d'être dans cette chronique-là?
Alors, ça fait plaisir, c'est un peu bizarre, parce que du coup, il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant « Ah bon, vous aussi, vous mangez des œufs le matin, c'est incroyable !» Voilà. Mais après, c'est toujours pareil, c'est hyper flatteur, ça fait parler du livre et c'est bien, une semaine après, c'est quelqu'un d'autre. Il y a l'idée que c'est flatteur, mais de passage.
Et alors, et la critique négative, vous la prenez comment?
Parce mal.
Qu'on est en France, c'est vrai, il y a des gens qui s'en fichent, il y a des gens qui la prennent
non,
mal.
Mais
on est en
fait...
France, la critique... à mesure que votre cote monte, que la cote d'un auteur monte, tout d'un coup, ça génère... une sorte de résurgence d'un petit filet aigre doux.
Absolument. Non, mais en fait, la critique négative, heureusement qu'elle est là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc même des insultes, c'est de la publicité pour un livre. Moi, je la gère. On m'a toujours dit, tu sais, la meilleure réponse, c'est l'indifférence. C'est la noblesse de l'indifférence est importante. Après, évidemment que ça fait hyper mal. Encore une fois, il faut se dire, là, c'est moi qui prends, dans une semaine, c'est quelqu'un d'autre.
Exactement.
C'est comme fameuse... les 24 heures de Elle. Voilà.
Exactement, c'est comme la fameuse rubrique de Libération. Pourquoi ça marche, avec le petit sous-entendu condescendant dans le titre. C'est-à-dire, si ça marche, c'est pas pour les bonnes raisons.
Voilà. Un peu ça, mais en fait, à la fin, ce qui parle, c'est les gens qui vont en librairie.
On est bien d'accord. Et ce proverbe, le silence punit l'insolence. Bonjour Marc-Antoine Lebray.
Bonjour.
C'est l'heure de vos stories, c'est les stories de Lebray. Des personnalités sont là pour notre invitée Cécile Coulon, à commencer par un critique littéraire, Augustin Trapenard.
Bonjour Cécile Coulon. Puisqu'on va parler philosophie, je salue dans ce studio Julia Vignali et Mélanie Gomez qui ont osé prendre des risques dans leur émission en évoquant un sujet sensible et militant intitulé « Et si pour mincir, on mangeait du gras ?»
C'est vrai.
On attend très vite les thèmes « Et si pour grossir, on continuait les sodas ?» Ou encore « Et si pour vomir, on finissait la bouteille ?» Cécile Coulon, est-ce que « Seul en sa demeure » était pour vous une façon détournée de philosopher sur les féminicides et la pression qu'impose notre société patriarcale sur la gente féminine, souvent à court de moyens de défense hétérogènes? Ou alors, vous avez juste envie de pognon?
Moi, alors,
C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, je recevrai la célèbre écrivaine Martine pour ses deux nouveaux best-sellers qui s'intitulent Martine à la manif anti-passe sanitaire, suivi de Martine en réanimation.
Ariel Dombal, la belle, est aussi passée ce matin.
Dès qu'on fait Son of the Bride. Bonjour Philippe, bonjour Cécile et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en fin de matinée. Hola Felipe, hola Cecilia y hola Los Glandos. Vous savez, Cécile, votre livre m'a particulièrement intéressé. Esta changar de los buzos de Bernardo en Rio. En plus,
los buzos.
C'est un sujet qui me touche, les mariages arrangés. Yo arranja, no vuaro, mi marido. En tout cas, Cécile, je souhaite un franc succès à votre ouvrage. Yo espera mejor venta porra una chica, inshallah.
Laurent Ruquier.
C'est pas fini. Au revoir. Au revoir, Cécile, et au revoir, Philippe. Adios, el artista. Y adios, el artichaut.
Laurent Ruquier, cette fois c'est bon, est venu pour s'adresser à vous, Cécile.
Bah, bonjour, Cécile. Je vois que vous êtes blond, mais est-ce que vous n'auriez pas un frère roux par hasard? Eh oui, car ce serait le roux coulon.
Oh là là.
Aujourd'hui, on est avec vous, Cécile, et demain, à votre place, il y aura un autre écrivain, c'est Frédéric Becbédé. La différence, c'est que quand vous avez fait finir un livre, on vous demande combien vous avez fait de pages. Et Becbédé, on lui demande combien il a fait de lignes.
C'est vraiment
c'est
plus
fini. Ça, bien sûr.
C'était le titre magnifique d'un livre de Philippe Léotard qui s'appelait Pas un jour sans une ligne. Merci Marc-Antoine Lebret. Nous on se retrouve demain justement avec Frédéric Becbédé pour son DJ set littéraire qui va jouer au Bataclan les 23 ou 24 septembre. Ça vous tente ce genre de choses?
Alors le Bataclan, pas vraiment. Les DJ, pas vraiment. Frédéric Becbédé, ça peut passer. Mais donc, en gros, je serai pas là, quoi.
Non, c'est clair.
Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez pour Bien fait pour vous, le programme du jour.
Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le batch cooking?
Oui. C'est on cook pour toute la semaine.
Voilà.
Donc, on cuisine pour toute la semaine.
On prend deux heures devant soi et on cuisine pour toute la semaine. C'est notre grand sujet du jour.
Voilà, on parlera aussi d'une maladie qui concerne même 4 millions de Français, l'asthme. Beaucoup d'idées reçues circulent encore autour de cette pathologie. On fera le point.
Voilà, c'est toujours bien ensemble. C'est toujours des très très bons mix que merci. Vous avez dans cette émission.
Merci Philippe.
Merci, bonne émission. Merci Cécile Coulon. Merci. Culture Média revient demain à 9h. Je vous dis bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.